pas forcément une histoire très gaie pour nous lancer dans la nouvelle année. Mais ce regard franc de la Bible sur la nature humaine, même de ses plus grands héros, est une preuve qu'elle dit vrai, qu'elle parle vrai et qu'elle connaît le cœur humain et les actions humaines. Ici commencent les grands soucis, on pourrait dire le dégringolade de la maison de David, avec les conséquences annoncées par le prophète Nathan suite à son péché avec Bathsheba. Le péché de David était un abus de sa masculinité, c'est-à-dire c'était un péché d'ordre sexuel. Alors les conséquences seront du même ordre. Ça se voit clairement dans ce chapitre. Amnon, notamment, et puis Absalom dans la suite, si vous connaissez l'histoire, tous les deux vont mal utiliser leur masculinité et commettre des choses pas bien. D'ailleurs, ce chapitre parle principalement d'Amnon et de Tamar, mais vous pouvez remarquer qu'il commence en parlant d'Absalom parce que c'est lui surtout qui va poser problème et ce serait un peu son histoire dans la suite de ces chapitres. Et les événements de ce chapitre vont conduire à la guerre civile et à la période la plus noire dans la vie de David. C'est vrai, pourtant, que David s'était repenti de son péché, s'était vraiment repenti, nous l'avons vu la semaine dernière. C'est vrai qu'il a été pardonné, vraiment pardonné, de son péché. Mais ici, en tout cas dans un premier temps, il a du mal à reprendre du poil de la bête. Et nous voyons dans ce chapitre un David qui a perdu sa vigueur, qui a perdu sa sagesse, qui a perdu un peu son courage, surtout en tant que père de famille. Alors, est-ce qu'il y a de quoi nous motiver, nous encourager dans cette histoire, avec cette nouvelle année devant nous? Je pense que oui, même les faiblesses de David peuvent nous servir et nous motiver, surtout les hommes, les pères de famille. Nous avons beaucoup de choses à apprendre dans la vie de David, et c'est ce que nous allons voir ce matin. David le père, tout d'abord j'aimerais voir qu'il était présent mais absent, il était présent dans la maison mais absent dans la vie de ses enfants et dans le cœur de ses enfants. Voyons cela tout d'abord, ici on le sent distant de ses enfants, pas très au courant de ce qui se passe, de ce qui les trouble. Ce qui est notable dans ce chapitre, c'est qu'à deux reprises, David se fait avoir. Et si vous regardez bien, en fait, c'est David lui-même qui envoie Tamar à sa perte. Ça, c'est en verset 7. Et plus tard, c'est David lui-même qui envoie Amnon à sa perte. Parce que dans les deux cas, on demande à David la permission et David doit intervenir. Il dit à Tamar, va chez Amnon. Et c'est lui qui dit à Amnon, va chez Absalom. Donc c'est David lui-même, c'est ça le comble, David le père, qui envoie ses enfants aux catastrophes. Alors ça, c'est pas bon, quand c'est le père qui dirige ses enfants vers le drame. Et c'est là où on sent que David n'est pas vraiment au courant, n'est pas vraiment présent dans la vie de ses enfants. Et par contre, l'ami Jonadab, lui, il sait tout. C'est ça qui est fort. Lui, il remarque tout de suite le problème chez Amnon. Et il dit, mais dis-moi, tu veux pas partager avec moi tes soucis? Et puis plus tard, Jonadab, ce même ami, il sait très bien que Absalom avait médité ce projet de tuer Amnon depuis 2 ans. C'est ce qu'il explique quand le roi est tout triste. Jonadab dit, ah, en fait... je sais quelque chose, c'est que ça fait depuis deux années qu'il médite ça et il l'a fait. Donc Jonadab connaît très bien les fils de David et David ne les connaît pas. Ça, c'est pas bon. C'est probablement mauvais signe quand les amis de Facebook connaissent nos enfants beaucoup mieux que nous les parents. Et c'est parfois une réalité. Et pourtant, les parents ne sont pas bêtes. Nous sommes les mieux placés pour repérer un problème dans nos enfants. Si nous sommes présents dans leur vie tout au long de leur éducation, nous allons repérer avant tous les autres un problème et nous pouvons intervenir pour les aider. Cette requête qu'avait Amnon, Il dit, je veux que Tamar vienne chez moi, je suis malade, je veux que Tamar vienne chez moi me faire deux gâteaux. Alors, je suis très malade et je veux deux gâteaux. D'abord, j'espère que ce n'est pas la gastro. Parce que... Donc là, à ce moment-là, deux gâteaux, bon, David aurait pu dire, bon, je fais venir de la cuisine maintenant, deux gâteaux, si c'est ça que tu veux. Non, je veux pas, je veux que Tamar, toute seule, me prépare et que me les nourrisse avec sa propre main. Là, un parent pourrait commencer à se poser des questions. Ça vous arrive peut-être, vous connaissez nos enfants, je sais, mais un de mes fils va passer, papa, est-ce que je peux prendre du papier brouillon? J'ai jamais dit non à ça, j'ai dit oui. 5 minutes plus tard, papa, est-ce que je peux prendre ta scie et du bois? Pourquoi pas? 5 minutes plus tard, papa, est-ce que je peux prendre des allumettes? Alors là, à ce moment-là, je dis, un parent qui est impliqué dans la vie de ses enfants, qui connaît ses enfants, peut-être là, il dit, ah, je vais quand même t'accompagner, voir ce que tu fais, parce que là, papier, bois et maintenant les allumettes dans la chambre, ça ne va pas. Un parent présent dans la vie de ses enfants aurait immédiatement senti quelque chose de louche. Si David était présent, attentif à cette démarche d'Amnon, il aurait repéré un problème. Jonadab l'a vu tout de suite. Donc, la démarche d'Amnon est louche, mais David, oui, bah, oui, vas-y. Comme beaucoup de parents, oui, vas-y. Ça, c'est un problème. Et quand on creuse un peu plus, on voit que ce qui est plus important... que nous, les parents, d'être présents dans la vie de nos enfants, c'est que la pensée de Dieu, la loi de Dieu, l'amour de Dieu soit présent dans le cœur de nos enfants. Et on voit que la connaissance de la loi de Dieu était présente dans cette maison, mais elle était absente dans le cœur d'Amnon, notamment. Tamar, elle est honorable en ce qu'elle connaît très bien la loi de Dieu. Elle manifeste une connaissance, un respect pour la loi de Dieu, la loi de Moïse, qui... traité justement de ce cas, mais pas Amnon, ce qui est triste parce que c'est David lui-même, on connaît ce psaume 34, plusieurs d'entre vous l'avez pris par cœur, David, c'est David qui dit « Venez mes fils et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel ». Venez mes fils, mais Amnon apparemment n'était pas attentif en tout cas ce jour-là, quand David voulait apprendre la crainte de l'Éternel, il ne le manifeste pas ici. Et c'est vrai, le vrai défi des parents, c'est pas juste de faire connaître le standard, la loi de Dieu, mais faire aimer la loi de Dieu, faire aimer le standard biblique. Et c'est ça que nous visons. Dans cette maison, ils devaient connaître la loi de Moïse avec un tel père, mais est-ce qu'ils l'aimaient? Malheureusement, Amnon ne l'aimait pas. Comment relever ce défi? Nous, c'est le défi à relever, que non seulement nos enfants connaissent, le standard que nous voulons faire respecter dans la maison, mais qu'ils l'aiment, qu'ils l'adoptent pour eux-mêmes. Et c'est là où une histoire biblique comme celle-ci sert à montrer justement l'intérêt et la beauté de, on va dire, de l'éthique biblique au niveau de la sexualité. Le monde aujourd'hui voudrait plutôt reprocher Tamar d'être trop chaste, trop coincée. T'es encore vierge, Tamar? Alors là, n'importe quoi. En plus, il dit qu'il t'aime. Alors c'est bon. Où est le problème? Mais en réalité, vous voyez bien que ce n'est pas l'amour ici. Il dit que c'est l'amour, mais ce n'est pas l'amour. Ce que Amnon aimait surtout, c'était Amnon. Ce que Amnon aimait surtout, c'était ses pulsions, ses hormones, ses propres désirs. Et en cela, il nous avertit, si avant le mariage, quelqu'un dit « Je t'aime, alors viens coucher avec moi », vous pouvez être sûr que ce n'est pas vrai. Il ne t'aime pas. Le vrai amour, c'est vouloir protéger la personne, son âme, son honneur, son corps. Ce que Amnon n'a pas fait. Et bien sûr, cette histoire montre que le péché devient rapidement amer. La jouissance du péché ne dure pas longtemps, surtout dans le domaine sexuel. Ce que Amnon, qui était si malade, si porté vers Tamar, l'instant après... Le verset 15 dit qu'il a eu pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il dit, lève-toi, va-t'en. C'est fort parce que c'est tout le contraire dans l'ordre inverse de ce qu'il avait. Il venait de dire, viens, couche, maintenant, lève-toi, va-t'en. Et dans tout ça, ce qu'on peut déplorer, c'est que Amnon tient ses conseils de son ami, d'un ami, plutôt que de son père. Alors effectivement, peut-être David était mal placé pour donner un exemple de la pureté sexuelle pour ses enfants, mais c'est ce dont ils avaient besoin, et ce que nous voulons aussi, nous, notamment les pères et les hommes, pouvoir donner à ce monde. Donc David, en tant que père, dans ce chapitre, en tout cas, quelques faiblesses, quelques défaillances, il était présent, mais absent, en tout cas dans le cœur et dans l'éducation de ses enfants. Ensuite, nous pouvons voir que David, il était irrité, mais sans corriger. La suite, chapitre 13, verset 21, dit que le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Il était très irrité et quoi encore? Bah, rien. Il n'a rien fait, c'est ça qui saute aux yeux. Il n'a rien fait à Amnon. Pas de désapprobation, pas d'intervention, pas de réprimande, pas de correction. Et pourtant, la loi de Moïse traite de ce cas, justement. Si Tamar était fiancée, alors là, c'était lapidation. Dans le cas où elle n'était pas fiancée, c'était une lourde amende imposée et il devait ensuite assurer les conséquences. Il y avait aussi, donc, la loi de Moïse traite de ce cas, la jurisprudence du livre de Genèse traite un peu de ce cas aussi. David aurait pu faire un certain nombre de choses. On comprend qu'il a dit peut-être pas lui-même lapider son fils, mais il aurait pu, par exemple, officiellement prononcer qu'Amnon serait pas le prochain roi. Déjà, il savait en quelque sorte que la royauté allait échoir à Salomon. Mais ça aurait été une manière officielle, publique, de dire, voilà, ça, un tel acte disqualifie une personne de régner. Aujourd'hui, on voudrait dissocier la vie privée des gens et la vie publique et politique, mais la Bible résiste à ce cloisonnement et dit, quelqu'un peut bien diriger les affaires des autres s'il dirige bien déjà son propre corps et sa propre famille. Tels sont les critères bibliques, notamment pour les responsables d'église. Donc, il aurait pu peut-être déjà officiellement prononcer que voilà, Amnon, c'est pas lui qui sera le roi à cause de ça. Ça aurait montré une recherche de justice. Il aurait pu le renvoyer de la maison. En tout cas, c'était plutôt à lui de partir que Tamar. Mais il est très irrité et très passif. Et ça nous apprend que l'irritation n'est pas une bonne mesure disciplinaire en tant que parent. La Bible ne dit pas « soyez énervés contre vos enfants pour les aider à être plus sages ». La Bible ne dit pas « soyez irrités contre vos enfants quand ils sont désobéissants ». Non, c'est une mauvaise manière de discipliner nos enfants que de simplement s'irriter contre eux, même si c'est la méthode la plus répandue. Être irrité, simplement, tout court, contre nos enfants, c'est une bonne manière de les irriter, ce que la Bible dit expressément de ne pas faire. Père, n'irritez pas vos enfants. L'avantage de la discipline, de la correction, d'une sanction juste qui suit une faute, c'est qu'une fois administrée, cela permet de tourner la page et rétablir la communion. Le parent n'a pas besoin d'être constamment irrité contre ses enfants parce que voilà, la sanction, la justice tombée et il peut rétablir la communion et l'enfant, lui aussi, il est au bénéfice de cette correction et il sait finalement que le parent l'aime puisqu'il ose le discipliner. Peut-être David se disait-il, je suis mal placé pour reprocher, corriger Amnon pour sa faute, parce que moi aussi, j'ai fait des bêtises. Que celui qui est sans péché donne le premier fessé. Mais justement, ce n'est pas un verset de la Bible. Et ça ne marche pas comme ça. S'il faut être un père parfait, s'il faut être parfait pour intervenir, discipliner nos enfants, eh bien, ils ne seraient jamais disciplinés, et ce sera un grand tort, et pour les parents, et pour les enfants. Ce que la Bible dit, c'est pas être hypocrite. Ne pas faire une chose et condamner la chose en même temps. Mais un parent comme David, qui avait confessé son péché, qui avait reçu le pardon de Dieu, il est en mesure d'enseigner et de corriger ses enfants pour les fautes qu'ils pouvaient faire. Mais la chose est que, faute d'une action, faute d'une correction, faute d'une mesure contre Amnon, eh bien c'est Absalom finalement qui était irrité. Père, n'irritez pas vos enfants. Eh bien c'est Absalom qui a nourri ça dans son cœur. Le verset 20, Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère a-t-il été avec toi? Bon, tais-toi, c'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Je pense que c'est sa manière, Absalom, à dire, si c'était autre personne que ton frère, bon, il serait mort avant demain. Mais il va me falloir quelques temps, quelques années pour me venger. Mais voilà, faute d'une action de David, Absalom va prendre la voie de la vengeance personnelle, qui n'est pas non plus une solution pour réparer les torts qu'on peut subir. Si vous avez subi un tort que vous nourrissez pendant des années de pensées de vengeance, vous allez vous aussi finir en mauvaise posture comme Absalom. Et tout ça parce que David n'était pas intervenu. Donc, encore quelques faiblesses de père, hein, présent mais absent, irrité mais sans corriger. J'avance, triste mais trop. David est triste mais trop dans toute cette affaire. Donc là, Absalom va se venger et il s'arrange pour tuer Amnon, son frère. Alors là, la nouvelle arrive au roi, verset 31, le roi se leva, déchira ses vêtements, se coucha par terre, tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Alors là, c'est vraiment, c'est le deuil, c'est les larmes. Verset 36, comme il achevait de parler, voici les fils du roi arrivèrent, donc c'est pas tous les fils finalement qui sont morts, mais voilà, tous ses fils. Ils élevèrent la voix, ils pleurèrent, le roi aussi, tous ses serviteurs versaient d'abondantes larmes. Verset 37, et David pleurait tous les jours son fils. Voilà, tout le monde pleure. Tout le monde déchire les vêtements. Le roi, les serviteurs, les fils du roi, les princes, voilà, c'est affolant tout ça. Amnon est mort, on pleure. Tous ces pleurs, c'est pour qui? C'est pour le violeur, c'est pour Amnon, le coupable. Ayons quand même une pensée pour Tamar. Hein. Tamar aussi avait un vêtement qu'elle a dû déchirer. Cette robe spéciale, multicolore, des princesses, des vierges. Elle a dû déchirer sa robe. Et c'était toute sa vie, tout son honneur qui était déchiré. Mais personne s'est joint à elle dans ses pleurs. Ça, elle a dû faire tout seule. C'est ça qui est un peu déséquilibré dans ce passage. On pleure grandement le coupable et pas trop la victime. Et on pourrait dire que tout ça, la réaction est quand même mal placée ou mal proportionnée. On peut très bien comprendre qu'en tant que père, de voir son fils Amnon, son fils aîné, mort, c'est affreux, c'est bouleversant, c'est terrible. Mais on se rappelle que c'est lui qui avait violé Tamar, et c'était une voix qui s'était prise lui-même. Donc, dans ses pleurs, je dirais, nous voyons une certaine faiblesse, une certaine immaturité chez David. Et puis c'est pas la seule fois que ça va arriver plus tard quand nous étudions la vie d'Absalom et ce qui s'est passé, la même chose va arriver. Absalom va être un fils très rebelle et c'est lui qui va lancer la guerre civile et qui va faire des choses affreuses contre son père. On comprend que David était porté vers ses enfants, son fils, et donc il va beaucoup pleurer Absalom lorsque celui-ci aussi rencontre sa mort. Mais dans les deux cas, il va falloir que quelqu'un, un Joab, qui vient lui parler, il dit, écoute, lève-toi et remets-toi, parce que là, ça convient pas, tu es le roi, tu dois conduire ce peuple, et là, tu pleures pour les mauvaises causes, finalement. Alors, effectivement, il y a un temps pour pleurer, un temps pour lamenter, il y a des situations qui le demandent, il y a aussi un temps pour reprendre les devoirs de père, reprendre les devoirs de responsable, de dirigeant, comme il était David, le roi, un temps pour espérer en Dieu et faire confiance dans sa volonté, son plan. Il y a quelque temps, récemment, une sœur m'avait partagé une illustration que je trouvais intéressante, encourageante. Récemment, vous savez, c'était les 10 ans du tsunami, le fameux tsunami vers le Thaïlande et l'Indonésie. L'illustration venait de ce tsunami. Parfois, dans nos vies, comme un tsunami, le tsunami bouleverse tout, détruit tout. David vient de traverser un tsunami. Le tsunami détruit tout, déchire nos cœurs, nos vies. Et puis elle disait, mais là, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, comme ces gens qui ont traversé un tsunami, qu'est-ce qu'on fait? On peut rester dans les ruines et pleurer pendant des années, ou bien on peut constater les dégâts, pleurer les dégâts, mais reconstruire, comme beaucoup l'ont fait. Et 10 ans après, voilà, il y avait quand même des belles choses qui sont passées, une reconstruction possible. Et ça, c'est aussi vrai dans parfois certaines épreuves, certaines tempêtes de nos vies, comme David va traverser. On peut rester uniquement sur les pleurs, les larmes, les tristesses, et rester dans le sac et le cendre pendant des années, si on veut. Mais, ou bien on peut reconstruire avec l'aide de Dieu, reprendre courage en Dieu, reconnaître que son plan s'accomplit dans nos vies, qu'il est là, à nos côtés. C'est ce que plusieurs vont devoir encourager David à faire. Et nous sommes confiants, parce que dans les psaumes, nous voyons que David l'a fait tout au long de sa vie. Et en cela, il est un exemple pour nous, malgré le tsunami qui ravageait sa maison, sa famille. Nous savons qu'il est resté confiant en Dieu. Et c'est là que j'aimerais terminer en conclusion, en rappelant que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Vous connaissez cette expression? Notre Père Céleste écrit droit avec des lignes courbes. Et cette histoire en est la preuve. Avec des gens imparfaits, Dieu écrit l'histoire parfaite. Avec des gens imparfaits comme David et Tamar et Absalom, Dieu écrit l'histoire parfaite. Les bêtises des hommes, nos bêtises, eh bien, elles sont comme les bontés de l'Éternel, c'est-à-dire elles ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Mais cela n'arrête pas, n'empêche pas Dieu d'être fidèle à ses promesses de compassion et de bonté. Et c'est ça la vie de David aussi. Les problèmes et les situations moches se renouvellent chaque matin dans sa vie. Et pourtant, le plan de Dieu s'accomplit. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. La plupart des commentaires sur ce passage constate qu'il y a des renvois évidents à l'histoire de Jacob et de ses enfants en Genèse. C'est vrai qu'il y a pas mal de rapports. Vous connaissez Jacob, il a plusieurs enfants, notamment Joseph, il y avait aussi Judas, il y a même une Tamar dans l'histoire de Jacob. Alors, c'est vrai, si vous comparez Jacob et David, ça saute aux yeux dans cette histoire. Tous les deux avaient un enfant victime des frères. Joseph a été victime de ses frères, Tamar a été victime de son frère. Tous les deux dans l'histoire, il y a cette même phrase qui revient, « Viens, couche avec moi ». Avec Joseph, c'était la femme de Potiphar, avec Tamar, c'était Amnon. Tous les deux avaient un enfant avec un tunique multicolore qui a été déchiré. Tous les deux avaient une fille, Tamar, dans la famille qui a subi une injustice on va dire, d'ordre sexuel. D'ailleurs, les deux histoires se font au même temps à la tente des brebis. Donc, effectivement, il y a beaucoup de comparaisons. Et quand ça arrive dans la Bible, il faut se dire que l'écrivain qui connaît très bien l'histoire de Genèse, il fait exprès pour nous avertir, pour susciter nos pensées. Et c'est vrai que David et Jacob, tous les deux, n'ont pas été des pères parfaits avec des situations familiales idéales. La situation familiale de Jacob avec ses concubines, avec tous ses enfants, ce n'était pas la belle famille, forcément. David aussi. Mais la réalité que tout Israël pouvait savoir, c'est que Dieu, à travers Jacob et à travers sa descendance, accomplissait ses promesses. D'ailleurs, Jacob, c'est Israël. Donc, à travers un homme comme Jacob, à travers cet Israël-là, Dieu accomplit sa promesse. Eh bien, il va refaire la même chose à travers David, tout comme Jacob, à travers David et sa descendance. Il va accomplir ses promesses à travers Jacob et sa descendance, y compris les Tamar et les histoires pas possibles. Il accomplit sa promesse et encore ici, à travers David et toutes ses histoires avec Amnon et Absalom et Tamar, Dieu accomplit ses promesses. L'histoire de David et de Bathsheba et tout le bins que cela a entraîné par la suite, vous savez, ça vient juste après la fameuse alliance que Dieu a fait à David d'établir son trône pour toujours. Donc ça c'est en chapitre 9, 10, tout ça on a vu, Dieu fait cette fameuse alliance, et puis juste après, là, catastrophe, drame, David, l'adultère. Sur l'image on affiche David le guerrier, David le psalmiste, David le roi, David le berger. On pourrait aussi parler de David l'adultère, David l'assassin, David le menteur. Tout ça juste après que David, Dieu fait une alliance incroyable, une alliance éternelle avec David. Et pourquoi ça arrive juste après? Ben, c'est comme si tout arrive pour tester l'alliance. Est-ce que cette alliance, est-ce que cette promesse va tenir? Vous érigez un mur et si la première tempête qui arrive de l'hiver renverse le mur, alors là, le mur n'était pas très solide. Dieu érige une promesse, une alliance, première tempête. Ce n'était pas la moindre. Est-ce qu'elle était solide, cette alliance? Est-ce qu'elle était solide, cette promesse? Eh bien, elle était solide, suffisamment solide pour gérer un péché de cette gravité, cette énormité-là. Et Dieu reste fidèle à sa promesse. D'ailleurs, tous les événements de ce chapitre avec Amnon et Absalom, ce sont ces événements qui vont conduire un jour Salomon à prendre le trône. Amnon va être écarté, Absalom va être écarté et la royauté va revenir à Salomon comme Dieu avait promis, le fils bien-aimé, comme indique le nom, et c'est ce fils bien-aimé de David qui va monter sur le trône et apporter la paix. Donc même dans ce chapitre, Dieu accomplit ses promesses. Quelqu'un disait que le royaume de Dieu avance de victoire en victoire, chacune habilement déguisée comme un désastre. Le royaume de Dieu avance de victoire en victoire, chacune de ses victoires est habilement déguisée en désastre. Il y a beaucoup de choses dans la vie de David qui ont l'apparence d'un désastre, notamment ce chapitre. Et je me dis que ça risque d'être vrai pour certaines choses dans l'année 2015. Mais on se rappelle que les désastres sont des victoires déguisées pour Dieu, pour notre vie. Pourquoi on peut se permettre de dire ça? Pourquoi on peut le savoir au plus profond de notre être? Parce que l'autre fils de David, Jésus, il a vécu la même chose. La croix sur laquelle il a été cloué, c'était un désastre. C'est une catastrophe. Jésus, ce n'est pas son tunique qui a été déchirée, c'est son corps qui a été déchiré. Il était cette victime, il a vécu une infamie, en Israël. Il a été le cible, il a porté tout ça. à la croix. Il a été victime des abus, des injustices des hommes. Mais ce désastre infâme, c'était la plus grande victoire de tous les temps. Parce que c'est là qu'il portait nos péchés, c'est là il a vaincu la mort, c'est là où il nous donne le don de sa justice, de sa perfection. Et c'est par cette croix, Jésus mourant pour nos péchés, que Dieu nous rend droit, Dieu nous courbe que nous sommes, infirme que nous sommes, tordu que nous sommes, Dieu nous rend droit et juste et parfait. Donc, David a besoin de Jésus, Tamar a besoin de Jésus, David a besoin de Jésus à cause de ses péchés, ses fautes, qui sont si apparentes dans le récit biblique. Tamar a besoin de Jésus, elle qui a perdu une honneur, qui était victime, eh bien, Jésus peut restaurer des personnes comme ça par sa perfection, sa justice, son amour. Alors si David a besoin de Jésus, si Tamar a besoin de Jésus, eh bien nous avons besoin de Jésus. Et encore, il s'offre à nous, Jésus, le fils bien-aimé de David, le fils de Dieu, qui est venu pour nous. Nous pouvons marcher dans ses voies durant cette année 2015 et savoir que même si nos péchés se renouvellent chaque matin, eh bien ses bontés et sa grâce aussi se renouvellent chaque matin, comme il a prouvé dans la vie de David.